Go down, Moses, way down in Egypt land.
Certains pensent à tort que l'esclave ne comprend ni le mot ni l'idée de liberté. Pourtant même Abba Yeboah, où l'esclavage ne rencontre sous sa forme la plus abjecte et cruelle. Les esclaves les plus ignorants comprennent en général parfaitement son sens. Ils ne manquent pas de remarquer l'écart entre leurs propres conditions et celles des plus cruels et des blancs, ni de mesurer l'injustice de loi qui conféra à ce dernier le pouvoir non seulement de s'approprier les profits de leur travail, mais aussi de leur infliger sans raison des châtiments qu'ils ne méritent pas, sans qu'ils disposent du moindre courant ni du droit de résister et de protester.
Solomon Northup, dans 12 Years a Slave.
Le podcast explore des vies d'esclaves pour illustrer les manières que ces derniers ont eu de lutter. Plongez avec nous dans cet épisode.
Si on essaie de définir de la façon la plus universelle ce qu'est l'esclavage, dans toutes les sociétés, généralement, les historiens, les juristes utilisent deux grands types de définitions. La première, elle consiste à définir l'esclavage à partir de la propriété. C'est-à-dire, est esclave un individu, homme, femme ou enfant, sur lequel s'exercent des droits de propriété de la part d'un autre individu. Et cette définition, elle est très opérante, c'est-à-dire pour les sociétés antiques, pour la Grèce antique, pour Rome, pour les sociétés méditerranéennes, pour les sociétés américaines. Il y a une autre définition de l'esclavage qui insiste non pas sur la propriété, mais sur le fait que l'esclave, c'est celui ou celle qui est exclu des dimensions les plus importantes du fonctionnement d'une société. Les sociétés esclavagistes sont des sociétés qui vivent dans une situation de guerre indéclarée.
En fait, à la fin du IXe siècle, il y a des révoltes de ces hommes et de ces femmes. C'est la révolte la plus grande d'esclaves qu'on ait connue au IXe siècle. Après, il n'y en a pas beaucoup. Donc la question, c'est pourquoi il n'y a pas de révolte, en fait.
Dans cet épisode, nous allons vous parler de la fuite des esclaves, aussi appelée maronnage. Il s'agit sans aucun doute de la manière la plus évidente que les personnes mises en esclavage ont eu de résister à l'oppression qu'ils subissaient. Dans le cadre de ce projet, nous avons étudié 113 annonces publiées dans la Gazette officielle de la Guadeloupe entre 1815 et 1833. L'étude de ces annonces nous a appris énormément de choses par rapport à l'esclavage et au maronnage. Nous avons ainsi pu constater que 70% des esclaves en fuite étaient des hommes et 30% des femmes. Sur les 49 femmes recensées, 6 ont fui avec un ou deux enfants. La fuite y apparaît comme un phénomène le plus souvent individuel, dans 56% des cas étudiés. Néanmoins, dans 37% des cas étudiés, les annonces mentionnent les allures ou les habitudes que ces marrons auraient eues dans certains territoires avant leur fuite. C'est particulièrement le cas des femmes, puisque 49% d'entre elles sont concernées, contre 30% des hommes. Dans 5 annonces supplémentaires, les parents de l'esclave en fuite sont mentionnés. Cela nous montre donc que si la plupart des esclaves fuyaient seuls, la présence d'un réseau familial ou autre pouvait les aider dans leur projet.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où nous plongeons au cœur de l'histoire pour explorer la culture comme lieu de résistance à l'esclavage.
Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'esclavage moderne. Car même si on ne parle pas suffisamment, c'est une réalité qui subsiste encore beaucoup trop aujourd'hui. Heureusement, certaines associations et certains individus qui ont réussi à se libérer de cette oppression luttent contre ce phénomène pour libérer le maximum de gens possible.